La journée d'un adepte du zen, cette belle fleur de lotus qui pousse dans de l'eau boueuse. Le zen prit pied en Amérique du Nord à la fin du XIXe siècle. Mais il ne rencontra une grande popularité qu'à la fin des années 1960 et durant les années 1970, lorsque des instructeurs de zen commencèrent à arriver en grand nombre et que les jeunes, mécontents de la religion dans laquelle ils avaient grandi, se mirent à chercher autre chose. Écoutez le chapitre 5 pour davantage de détails sur le zen lui-même. Depuis cette époque, la manifestation purement occidentale de la pratique bouddhique que sont les centres zen est apparue dans les grandes villes et les villes à travers des pays comme les États-Unis ou la France. Comme des monastères, les centres zen proposent des programmes quotidiens de méditation, de rites et de travail, accompagnés par des conférences régulières et des groupes d'études. Mais contrairement à leur pendant monastique, ces centres adaptent leur approche aux besoins des adeptes laïcs occupés qui doivent adapter leur engagement spirituel en fonction des obligations de leur vie de famille, de leur carrière et d'autres impératifs. Bien qu'au Japon et en Corée, les temples zen aient des groupes de méditation laïque, rien qui ressemble à un centre zen n'a jamais émergé en Asie. La raison est assez simple. Il y a bien plus d'adeptes laïcs qui s'engagent avec ferveur dans la pratique bouddhiste en Occident qu'en Asie, où les adeptes enthousiastes deviennent en général moines ou prêtres. Peut-être ce phénomène est-il le résultat de la croyance occidentale que nous pouvons tout avoir, l'éveil spirituel et le succès matériel. L'éthique judéo-chrétienne, si prééminente en Amérique du Nord, enseigne d'ailleurs que la vie quotidienne est inséparable de la pratique spirituelle. Ou peut-être les Occidentaux n'ont-ils tout simplement pas le choix. Dans une culture où le style de pratique que l'on trouve dans les monastères n'est dans une large mesure ni reconnu ni soutenu, les adeptes doivent gagner eux-mêmes leur vie en étudiant le Dharma. N'oubliez pas. En tout cas, le bouddhisme possède de forts antécédents qui parlent en faveur de cette approche. La tradition Mahayana, dont le zen fait partie, considère que les membres des ordres monastiques d'une part et les laïcs d'autre part ont autant de chances les uns que les autres d'atteindre l'éveil. La tradition zen, en particulier, a toujours souligné l'importance de la pratique en plein milieu des activités les plus banales, comme faire la vaisselle, conduire une voiture et s'occuper de ses enfants. Le Mahayana exprime cette idée de la façon suivante. De même que la plus belle des fleurs, la fleur de lotus, pousse dans de l'eau boueuse, l'adepte laïque peut trouver de la clarté et de la compassion dans l'agitation de la vie quotidienne. Bien que les centres zen constituent la plaque tournante de leur communauté spirituelle respective, les membres continuent leur pratique durant la journée en appliquant l'attention méditative à chacune de leurs activités. N'oubliez pas! Le zazen, littéralement méditation assise, est au cœur de la pratique zen. C'est une forme de méditation silencieuse considérée à la fois comme une méthode pour parvenir à l'éveil et comme une expression de la nature de Bouddha déjà éveillé de l'adepte. Autrement dit, il est possible d'être la vérité tout en étant à sa recherche. Alors que pensez-vous de cette offre du style « 2 pour le prix d'un » En tant qu'adepte du zen, on vous encourage à pratiquer seul le zazen. Mais on considère aussi que la pratique de la méthode assise en compagnie des autres membres du sangha est particulièrement efficace et bénéfique. Le sangha est l'un des trois joyaux avec le Bouddha et le Dharma. La plupart des centres zen proposent des groupes de méditation quotidiens, d'habitude tôt le matin avant le travail et dans la soirée après le travail. En fonction du temps dont vous disposez et de l'horaire de votre centre, vous pouvez passer entre 1 et 3 heures à pratiquer le zen avec d'autres.
Je vous salue bien bas. Le premier instructeur de zen de Stephen avait l'habitude de dire que le bouddhisme est une religion de la révérence. Cette phrase veut dire 2 choses. Le fait même de s'incliner exprime que l'on abandonne la préoccupation centrée sur soi-même, ce qui constitue l'un des enseignements de base du bouddhisme. Les bouddhistes se saluent souvent en s'inclinant. Et il est vrai que la révérence occupe une place importante dans chaque tradition de bouddhisme. Les bouddhistes s'inclinent devant leur autel, leurs instructeurs, leurs robes, leurs coussins de méditation, et les uns envers les autres. La révérence, expression traditionnelle de gratitude, de respect, de vénération, de reconnaissance et d'abandon, peut être exécutée aussi bien spontanément que dans des situations et des contextes indiqués. Autrement dit, on s'incline certaines fois parce que l'on en a envie, mais d'autres parce que c'est ce que l'on est censé faire. La révérence est aussi une pratique courante dans les sociétés asiatiques traditionnelles. Les Asiatiques s'inclinaient-ils pour saluer avant le bouddhisme ? Cette religion émergea en Inde il y a 2500 ans, fit son chemin en Asie du Sud-Est plusieurs siècles après, et prit pied au Tibet, en Chine, en Corée et au Japon depuis le milieu du premier millénaire. C'est pour cela que le bouddhisme, la révérence et la culture asiatique sont tous trois étroitement imbriqués. La révérence dans le bouddhisme prend différentes formes selon la culture et les circonstances. En Asie du Sud-Est, par exemple, vous marquez votre respect en tenant les mains en position de prière vers votre front, qui est légèrement incliné. Pour une prosternation complète, agenouillez-vous dans cette position, assis sur les fesses. Posez les paumes des mains sur le sol à environ 10 cm l'une de l'autre et touchez le sol du front entre les mains. Selon la tradition zen japonaise, exécutez une demi-révérence en tenant vos mains jointes au niveau de la poitrine et puis inclinez-vous d'un mouvement de la taille. Pour exécuter une prosternation complète, commencez par la demi-révérence et puis continuez par le type de prosternation connu en Asie du Sud-Est, mais les paumes seront tournées vers le plafond et non vers le sol. Dans le bouddhisme tibétain, marquez votre respect en touchant des mains jointes votre front, votre gorge et votre cœur, ce qui indique le dévouement du corps, de la parole et de l'esprit, et en exécutant une prosternation complète, plus ou moins, en allongeant la prosternation du zen jusqu'à ce que vous soyez allongé le visage contre le sol. Bien que la révérence puisse sombrer dans la simple formalité, l'intention profonde est d'exprimer le respect et la dévotion sincère. La pratique régulière de la révérence dans les monastères et les communautés bouddhistes contribue à générer une atmosphère d'harmonie, de bonté et de paix. En tant qu'occidental entraîné à ne s'incliner devant personne, vous trouverez peut-être qu'il vous est difficile d'effectuer cette pratique au début. Mais vous découvrirez sans doute rapidement qu'elle favorise la flexibilité et l'ouverture de l'esprit et du cœur qui font du bien de l'intérieur. Et cela, c'est l'essence même du bouddhisme. Si tel est le cas, vous pourrez méditer la petite phrase que disait aussi ce même instructeur à Stephen. Quelle que soit la direction de la révérence, vous ne faites que vous incliner devant vous-même.
Dans les zendo, salles de méditation rattachées au centre zen, dans tous les États-Unis, les adeptes de la méditation répètent le rite familier qui consiste à se rassembler dans la pénombre qui précède l'aube pour méditer ensemble. Bien que le zen soit le plus connu en Occident sous sa forme japonaise et que nous nous servions de termes japonais dans toute cette section, souvenez-vous que la tradition zen commence en Chine et a été également introduite en Occident par des maîtres coréens et vietnamiens. Après être entré dans la zendo, vous vous prosternez respectueusement devant votre coussin ou devant votre chaise, et puis vous vous mettez en posture pour le zazen. Même dans sa forme occidentale, le zen est célèbre pour son respect des formalités traditionnelles. La méditation commence lorsqu'une cloche ou un gong retentit et se poursuit en général en silence pendant 30 à 40 minutes. Selon l'école de zen à laquelle vous appartenez, pour en savoir plus sur les différentes écoles, écoutez le chapitre 5, et la maturité de votre pratique, vous passerez votre temps à suivre votre respiration et à être tout simplement assis. Une technique plus avancée de l'attention au présent sans objet particulier de méditation. Ou à tenter de résoudre un koan. Quelle que soit votre technique, on vous encouragera à pratiquer la méditation assise avec la colonne vertébrale droite et une attention sincère. Entre les périodes de méditation, vous formerez sans doute une file avec les autres adeptes pour méditer en marchant attentivement ensemble autour de la salle. À la suite d'une phase ou deux de méditation, tout le monde psalmodie en général une version ou une autre des quatre grands vœux du Bodhisattva. Aussi innombrables que soient les êtres sensibles, je fais vœu de les sauver tous. Aussi inépuisables que soient les attachements ou illusions, je fais vœu d'y mettre fin. Aussi illimités que soient les dharmas ou vérités, je fais vœu de les maîtriser. Aussi insurpassable que soit la voie du Bouddha, je fais vœu de l'atteindre. Durant l'office qui suit la méditation, vous vous prosternez profondément 3 ou 9 fois devant l'autel, sur lequel on trouve habituellement une statue du Bouddha Shakyamuni ou du Bodhisattva Manjushri, des fleurs, des bougies et de l'encens. Et vous psalmodiez un ou plusieurs des textes importants de la sagesse, dont en général le Sutra du cœur. Ces textes proposent des rappels concis des enseignements essentiels du zen, et l'autel représente les 3 joyaux du bouddhisme, les objets absolus de vénération et de refuge, le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Lorsque votre méditation matinale est terminée, votre pratique du zen vient juste de commencer. Toute la journée, vous aurez des occasions constamment renouvelées d'être attentif, non seulement à ce que vous faites ou à ce qui se passe autour de vous, mais aussi aux pensées, aux émotions et aux modèles de réaction qui sont déclenchés par les événements de la vie. Que vous soyez sur votre zafu, coussin de méditation, ou sur la route, cette attention constante et intégrante se trouve au cœur de la pratique de chaque tradition bouddhique. N'oubliez pas. En particulier, la tradition zen met l'accent sur le fait qu'il faut être très attentif à chaque aspect de sa propre vie. Parce que la vérité profonde, c'est que vous n'êtes pas séparé des instruments que vous utilisez, ni de la voiture que vous conduisez, ni de la vaisselle que vous lavez, ni d'ailleurs des gens que vous rencontrez. Selon le zen, le monde entier, c'est votre propre corps. Lorsque vous vous mettez au volant de votre voiture, par exemple, vous pouvez vous arrêter pour sentir le contact de votre dos contre le dossier, écouter le bruit du moteur au démarrage, diriger votre attention sur l'état de la route et noter votre état d'esprit et comment vous vous sentez sur le plan émotionnel alors que vous descendez la rue. Lorsque vous stoppez à un feu rouge, vous pouvez être conscient de l'impatience que vous ressentez en attendant que le feu passe au vert, des sons de la circulation autour de vous, de la chaleur du soleil à travers la vitre, etc. Comme vous le voyez, chaque instant vous fournit du matin jusqu'au soir une occasion de vous entraîner. En plus de la méditation et de l'office, la plupart des centres zen proposent des discours hebdomadaires sur le dharma, qui sont prononcés par l'instructeur résident, et des plages horaires régulières destinées à des entretiens privés avec l'instructeur pour parler de votre pratique. Ces rencontres face à face peuvent porter sur n'importe quel aspect pratique, y compris le travail, les rapports humains, la méditation assise et l'étude formelle relative au koan. Le maître de zen n'est pas un gourou doté de pouvoirs particuliers. Les adeptes le considèrent comme un guide habile qui donne un exemple du mode de vie d'un être éveillé. Si vous êtes un adepte régulier du zen mais ne pouvez pas pratiquer au centre parce que vous êtes malade, que vous vivez trop loin ou que vous ne pouvez pas vous organiser afin d'inclure cette activité à votre emploi du temps, vous pouvez en général pratiquer tout seul une version de cet emploi du temps journalier en vous asseyant le matin et si possible aussi le soir. Ensuite, pour vitaliser et approfondir votre pratique, vous pouvez mettre un point d'honneur à participer à une ou à plusieurs retraites de méditation intensive chaque année.
Avec les koans du zen, passez par la porte sans porte. Quand vous pensez au zen, quelle image vous vient à l'esprit? Peut-être celle du moine au crâne rasé habillé d'une robe noire et assis devant le mur en silence? Ou peut-être celle du maître de zen prononçant des paroles énigmatiques ou ayant un comportement inhabituel destiné à arracher ses disciples à la torpeur spirituelle. Cette image-là occupe une bonne place dans les énigmes d'apprentissage du zen qu'on appelle koan, dont les maîtres se servent depuis des siècles, en particulier dans la tradition du Rinzai, comme catalyseur de l'éveil de leurs disciples. Plutôt qu'un exercice intellectuel, l'étude du koan est un processus de réflexion spirituelle destiné à confondre l'esprit conceptuel, à court-circuiter l'intellect, pour entrer ainsi dans la vision directe, Kensho, de la nature non-duale de la réalité, c'est-à-dire la vision de notre unité inhérente avec tout ce qui est vivant. Certains maîtres, surtout ceux des débuts du Chan en Chine, n'avaient pas besoin de telles énigmes. En contact direct avec leurs disciples durant la vie monastique quotidienne, ils avaient suffisamment d'occasions de transmettre le Dharma par leurs paroles, leurs gestes et leurs comportements, et surtout par leur présence silencieuse. Mais alors que la taille des monastères augmenta et que les maîtres devinrent moins accessibles, la rencontre de l'enseignement se trouva de plus en plus confinée au dialogue public et aux salles d'entretien, où les maîtres interpellaient et encourageaient leurs disciples et testaient aussi leur compréhension. Dans ce contexte, les maîtres de Zen se mirent à se servir de questions traditionnelles et d'histoires vraies de rencontres maîtres-disciples classiques, à l'origine pour provoquer le Kensho, et ensuite pour enseigner différents aspects du joyau de la prajna, sagesse éveillée, aux multiples facettes. Par-delà les siècles, ces histoires et ces énigmes furent recueillies et organisées de façon systématique dans une sorte de programme progressif pour vivre du point de vue éveillé, avec l'accent mis par la tradition zen sur la transmission directe de l'enseignement en dehors des écritures, les koans, avec les histoires de transmission et les poèmes des grands maîtres, devinrent le point focal de l'étude des adeptes appliqués du zen, et ils sont encore largement employés aujourd'hui en Asie et maintenant en Occident. Parmi les koans les plus connus, citons « Quel est le bruit d'une seule main qui applaudit ?»« Quel était votre visage avant la naissance de vos parents ?» et « Qui suis-je ?»
La plupart des centres zen en Occident proposent régulièrement des retraites d'un à sept jours, seishin en japonais, qui comportent jusqu'à 12 séances de méditation chaque jour, des offices matin et soir, des exposés quotidiens sur le dharma et des entretiens. Le zen coréen propose aussi des retraites qui sont avant tout consacrées aux psalmodies et aux révérences. En règle générale, ces retraites rigoureuses sont tenues dans le silence et fournissent une occasion d'aiguiser sa concentration, d'approfondir sa compréhension des vérités fondamentales du bouddhisme et peut-être d'avoir un aperçu de votre nature essentielle de Bouddha, ce qui est une expérience d'éveil désignée en japonais par les termes Kensho ou Satori. Les retraites de plus d'un ou deux jours sont en général à temps complet, bien que certains centres autorisent une participation à temps partiel pendant que votre vie de tous les jours continue. En conformité avec l'esprit Mahayana, d'égalité générale entre les moines et les laïcs, les grands centres zen possèdent souvent des centres de retraite à la campagne qui proposent des hébergements monastiques et de la formation pour les moines et les nonnes, comme pour les adeptes laïcs. Par exemple, le centre zen de San Francisco, qui se décrit lui-même comme l'un des principaux sanghas bouddhistes hors d'Asie et forme une communauté variée de prêtres, de laïcs, d'instructeurs et de disciples, comprend trois établissements séparés. Le centre Zen City Center, établissement destiné aux citadins. La ferme Green Gulch Farm, établissement qui combine un centre Zen de banlieue et une ferme d'agriculture biologique. Le centre Tassajara Zen Mountain Center, au cœur d'une zone sauvage et isolée du monde extérieur pendant les mois d'hiver, cet établissement propose chaque année deux périodes de formation de 3 mois chacune, inspirées des formations monastiques japonaises traditionnelles. Les trois établissements proposent des retraites à temps complet normal, mais le programme de Tassajara est particulièrement intense. Chaque centre zen a son propre calendrier de cérémonies et d'événements spéciaux qui ponctuent l'année. Au centre zen de San Francisco, par exemple, ces événements comprennent des cérémonies commémoratives en l'honneur du fondateur, le Roshi Suzuki, des cérémonies de Bodhisattva lors de la pleine lune, des manifestations pour célébrer le solstice d'hiver, la célébration de la veille du jour de l'an, la cérémonie en l'honneur de Martin Luther King Jr., des manifestations pour célébrer l'équinoxe de printemps, l'anniversaire de la naissance du Bouddha et celui du jour où il reçut l'éveil, des cérémonies annuelles en l'honneur du fondateur du Zen en Chine, Bodhidharma, et du fondateur de la tradition Zen au Japon, Iei Dogen. De nombreux centres proposent aussi la participation à des groupes d'études hebdomadaires, ayant pour thème les écritures bouddhiques et l'enseignement de grands maîtres de Zen. Et les communautés Zen, comme les églises d'autres cultes, patronnes des réunions sociales où les membres se rencontrent et apprécient leur compagnie mutuelle.